Je vous invite à suivre l'émission Dialogue entre Congolais avec Alain Irung à la présentation.
Bonsoir. Clôture hier mardi à Kinshasa du colloque interuniversitaire sur la gestion des catastrophes en Afrique sur le plan de la communication. Parmi les recommandations, les participants ont proposé notamment que les pays africains cessent de gérer les catastrophes en urgence et seulement à travers les médias, qu'ils instaurent dans les structures spécialisées des services pour s'informer et informer de manière permanente les populations sur des catastrophes éventuelles. Comment analyser les propositions issues de ce colloque? Pour en parler, nous recevons le professeur Jean-Chrétien Cambo. Il est communicologue, professeur de sciences de la communication dans plusieurs universités au pays et à l'étranger. Professeur Cambo, bonsoir.
Bonsoir.
Dominique Lutula, président de la Croix-Rouge de la RDC. Monsieur Lutula, bonsoir.
Bonsoir.
Honorable François Nzekouye, député national de la majorité présidentielle, il est membre de la commission environnement, ressources naturelles et tourisme à l'Assemblée nationale. Honorable Nzekouye, bonsoir.
Bonsoir Alain Irung.
Nous sommes mercredi 19 septembre 2012. Merci de votre fidélité et bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez-les 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
On sait désormais comment gérer les catastrophes en Afrique sur le plan de la communication. En tout cas, une piste proposée par les universités congolaises spécialisées en communication est désormais disponible et elle recommande à l'Afrique de dorénavant mettre en place dans chacun de ses États une politique communicationnelle permanente et interinstitutionnelle. Autrement dit, que l'Afrique cesse de communiquer sur les catastrophes uniquement dans les médias et seulement lorsque celles-ci surviennent, mais qu'elle le fasse de manière permanente et à travers toutes les structures spécialisées comme la police, les assurances, les hôpitaux, les services de certification, mais également les humanitaires. Plus de détails avec vous, Donna Madimba.
Au fait, concrètement, le colloque recommande aux hôpitaux, aux humanitaires et à la police par exemple, de mettre en place chacun dans son fonctionnement, à côté ou à l'intérieur de ces services spécialisés déjà existants, d'autres structures chargées de monitorer ou de communiquer sur les sinistres éventuels ou en cours, que ces structures ne soient plus conjoncturelles, c'est-à-dire chargées uniquement de résoudre les urgences quand elles surviennent, mais définitivement permanentes, c'est-à-dire opérationnelles, catastrophes en cours ou pas. Que ces services, police et autres, sur la problématique catastrophe, ne fonctionne désormais plus de manière isolée, mais plutôt en synergie, que même l'école et les entreprises soient également impliquées, avec notamment la souscription des élèves et du personnel à l'assurance, et que les médias systématisent ce que beaucoup font déjà, à savoir pas seulement les couvertures à chaud des sinistres, mais aussi des émissions, des enquêtes et sujets d'analyse sur ces sinistre.
Merci Donna Madimba. En parlant de catastrophe, Brazzaville, 4 mai 2012, explosion au dépôt d'armement du régiment blindé des forces armées congolaises, bilan plus de 200 morts, des centaines de maisons rasées au quartier Mpila, des milliers de blessés. Revenons sur ce reportage d'Arsène Séverin, notre correspondant à Brazzaville.
C'est un incendie dont l'origine n'est pas encore déterminée, qui a brûlé à un dépôt d'armes au camp militaire régiment blindé. Il y a eu une série d'exflagrations qui ont commencé autour de 8 heures et puis petit à petit il y a eu des détonations de façon sporadique, ce qui a créé une panique générale et qui a donc fait souffler certains édifices publics et notamment les commerces dans le centre-ville et les bureaux administratifs. Pour l'heure, donc, le gouvernement ne parle pas de victimes de mort, mais plutôt reconnaît qu'il y a eu de nombreux blessés et de dégâts matériels importants. Mais des témoins signalent qu'il y a eu, au tout début donc, de ces déflagrations, des pertes en vies humaines, des maisons ont été effondrées, enterrant pratiquement des occupants sous les décombres. Et actuellement, on signale un afflux important des blessés à l'hôpital de Makerere, donc c'est au sud de Brazzaville, où le personnel médical est complètement débordé.
Merci Arsène Séverin. Professeur Jean-Chrétien Cambo, vous êtes communicologue, professeur de sciences de la communication dans plusieurs universités au pays et à l'étranger. Vous êtes membre du comité d'organisation. Qu'est-ce qui a milité à l'organisation de ce colloque, professeur?
Le rappel que l'université n'a pas que le rôle que nous lui reconnaissons généralement, c'est-à-dire la formation des étudiants ou disons des cadres, mais l'université a un autre rôle, c'est la résolution des problèmes dans la société. Parce que l'université semble détenir une expertise qui ne doit pas se confiner dans des laboratoires, dans des ateliers, mais cette expertise doit effectivement promouvoir le progrès de la société. En tant que tel, nous avons été principalement interpellés par ce qui s'est passé, vous en avez parlé tout à l'heure, en face de nous, à Brazzaville, Pila, et en ce moment, je m'y trouvais, et avec les collègues universitaires et communicologues de Marien Wabi, nous avons dit que nous ne pouvons plus demeurer inattentifs à de tels problèmes et qu'il fallait nécessairement y faire face. Voilà, l'idée a germé presque de cette manière-là. Et puis, pendant que nous y pensions, nous avons également appris la catastrophe aérienne à Lagos, sur un quartier populaire, et puis il n'y a pas longtemps, vous avez encore suivi la catastrophe aérienne au Sud-Soudan. Donc tout cela fait que nous devons, nous, universitaires, faire face nécessairement à ce genre d'interpellation.
Alors, professeur, gérer les catastrophes en Afrique sur le plan de la communication, sans nous perdre dans les définitions, en termes simples pour les auditeurs qui nous suivent, qu'est-ce que ça voudrait dire?
En termes simples, je crois que je peux me risquer en disant ceci, que la catastrophe, c'est un événement imprévu, mais la gestion des catastrophes ne doit pas être de l'imprévoyance. Je crois que ça, c'est plus court. Imprévu d'un côté, mais non imprévoyance de l'autre. Voilà, c'est plus simple.
C'est plus simple. Alors, généralement, procédons par un exemple, professeur. La catastrophe de Mpila, autour d'une catastrophe, il y a toute une chaîne qui s'organise. Quelle est la place des médias? Quelle est la place des autres partenaires dans cette chaîne?
Vous savez, la communication, elle est au centre de la vie humaine. Nous avons redéfini la communication au cours de ces colloques de manière vraiment très simple, en disant tout simplement ceci, que dès que deux personnes se trouvent en situation soit présentielle, soit même distancielle, la communication commence. Et quand il y a catastrophe, tout de suite nous faisons appel à au moins deux personnes, c'est-à-dire que la société se met en mobilité. À partir de ce moment-là, la gestion communicationnelle commence, parce que celui qui meurt doit être enterré, celui qui est blessé doit être évacué, et celui qui survit doit amener l'information. Bref, la société se découvre comme étant une conjugaison des efforts individuels, autrement dit, cimentés par la communication. Donc la communication, elle est vraiment transversale. Et c'est pourquoi, au cours de ce colloque, nous avons réuni médecins, ingénieurs, policiers, tout ça, pour montrer que tous sont unis autour de la communication.
Alors, dans le résumé du colloque, il y a une phrase qui m'a frappé. Il n'y aurait donc pas une seule version du désastre. L'aléa laisse toujours une certaine marge de manœuvre entre les mains des hommes. Qu'est-ce que ça voudrait dire?
Tout simplement ceci. Que l'on ne doit pas prendre une catastrophe comme étant une fatalité de nature spirituelle, un peu comme nous disons chez nous, dans notre pays, parfois disons dans notre société. Et ça, amica kabonzam bemotatin dit non, non. Toute catastrophe peut être gérée. Elle peut être gérée. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive, la société fait toujours tout pour se survivre. À partir de ce moment-là, les aléas deviennent gérables. C'est pourquoi nous parlons de la gestion des catastrophes. Sinon, si ce n'était pas le cas, on n'en parlerait même pas en termes de gestion. On dirait tout simplement, ça arrive, c'est fini, la société est terminée. Nous avons eu éruption à Goma, nous avons eu des inondations, nous avons eu des incendies. Mais la société a toujours survécu parce que l'aléa, quoi qu'il soit de nature tout à fait imprévue, mais est toujours conjuré par l'effort de l'homme.
Vous avez également mis l'accent au cours de ce colloque sur la prévention, professeur.
Oui.
Qu'est-ce que cela peut apporter dans la gestion de catastrophes?
Plus que cela, le colloque a créé, disons inventé, si je peux être pédant, ce que nous appelons un collecticiel, c'est-à-dire une sorte de programme en 5 pôles qui devient un instrument de gestion des catastrophes. Je vais donner par exemple juste 2 éléments parmi les 5 pôles de ce programme. Le premier, c'est évaluation de l'ordre structurel existant. Je donne ce petit exemple. Vous savez, l'hôpital général de référence de Kinshasa, qu'on appelle généralement Mamayemo, les gens ne le savent pas, c'est un hôpital qui a dans la partie urgence seulement 22 lits. 22. Autrement dit, s'il y a un accident, quelque part dans la ville de Kinshasa, si vous avez 23 victimes, il y a une victime qui sera par terre. Alors, c'est un élément qui doit être intégré dans la prévoyance des catastrophes. Que dès le moment où il y a un accident, que vous avez plus de 22 victimes, il faut commencer, mettons, la chaîne de relève, quitter Mamayemo pour aller, je ne sais où, à Bondeko, et ainsi de suite. Je vais donner un autre exemple. Toujours à propos de cet ordre existentiel du départ. On nous a démontré au cours du colloque qu'il y a un tronçon routier dans la ville de Kinshasa qui est vraiment stratégique. C'est le boulevard Sendoué, qui relie les 2 plus grands boulevards de Kinshasa, en dehors de boulevard 30 juin, Kasavubu et Lumumba. Et que ce boulevard-là doit être toujours ouvert. Parce que s'il est bloqué, il ne peut plus permettre la circulation sur Kasavubu ni sur Lumumba. Voilà quelques éléments. Nous avons eu 5 pôles pour ce programme que nous mettrons à la disposition de tous ceux qui travaillent dans ce domaine.
Dominique Lutula, vous êtes président de la Croix-Rouge RDC. La Croix-Rouge, souvent, on voit son importance qu'en cas de catastrophe. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Comment vous vous organisez lorsqu'il y a catastrophe?
Merci beaucoup de l'invitation, Alain. C'est un sujet évidemment très important pour nous en tant que Croix-Rouge de la RDC. Il est vrai que, d'abord, je commence par déplorer l'organisation de ce colloque-là par les universités de notre pays, qui malheureusement, ils ont oublié que la Croix-Rouge existe dans notre pays et que nous n'avons pas reçu l'invitation, si ce n'est que le comité international de la Croix-Rouge a été invité, et heureusement, parce qu'on est composant du mouvement, le CIC a passé l'invitation à la Croix-Rouge RDC et nous y avons participé. Et je remercie de l'organisation et de cet événement parce que le fait qu'il y a déjà la conscience dans les Congolais que c'est un point important, qu'il faut qu'on y réfléchisse, c'est un très bon élément. Et je pense qu'on ne va pas s'arrêter là dans les discussions ou autres, parce que nous, à la Croix-Rouge, notre mission principale, c'est venir en aide aux victimes des catastrophes. Il y a des catastrophes créées par l'homme, il y a des catastrophes naturelles aussi. Il y en a plusieurs qu'on peut lister, mais ce n'est pas le moment ici. L'essentiel, c'est que la Croix-Rouge, à temps de paix, se prépare pour faire face à ces catastrophes lorsque elles arrivent. Et dans la préparation dont je parle ici, c'est évidemment le recrutement, la formation des volontaires que nous sommes organisés et nous avons des modules parce qu'immédiatement après le recrutement, on les forme et nous les encadrons jusqu'à quand il y a catastrophe. Mais nous nous sommes dit, après multiples réflexions, que la Croix-Rouge ne va pas attendre seulement que la catastrophe arrive pour commencer à mener les actions. Il y a aussi des activités que nous pouvons mener à temps de paix. Évidemment, d'une part, il y a la formation, mais la formation seule ne suffit pas. Il y a multiples accidents domestiques, par exemple. Il y a les accidents de circulation qui peuvent arriver. Et il y a aussi d'autres événements qui surgissent qui a besoin des gens de bonne volonté pour venir en aide à la population qui souffre. Des veillards d'une part, C'est une population, une catégorie de la population qui est presque oubliée. Et voilà. Donc, de manière générale, la Croix-Rouge mène ses activités maintenant et à temps de paix et à temps de catastrophe. Alors, concrètement, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons, lors de nos différentes discussions avec les autorités gouvernementales, nous avons réussi évidemment à les convaincre qu'à un moment donné, il faut que le gouvernement arrive à prendre des décisions concrètes pour s'organiser. Et s'organiser comment? Parce que lorsqu'il y a catastrophe, avec autant de victimes, on peut citer, bon, Biyamena Ebola par exemple, il y a eu éruption volcanique, il y a des conflits armés dans le pays, et depuis plusieurs années malheureusement. Et est-ce qu'il faut toujours attendre qu'il y ait catastrophe pour s'organiser? Et qu'est-ce que le gouvernement doit faire concrètement? Après autant de discussions, nous avons réussi évidemment à convaincre... du moins le ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, le ministère de la Santé et Intérieure, pour que nous puissions élaborer un plan de secours d'urgence dans le pays. Et ce document a été élaboré, on a appelé le plan ORSEC, malheureusement qui n'est pas encore adopté officiellement, mais du moins, le gouvernement est déjà sensibilisé par rapport à ça pour qu'on arrive à un moment donné à prendre en charge et les victimes et comment gérer une catastrophe.
Alors, en attendant, peut-être qu'on prenne d'ici là les grands axes de ce plan de secours d'urgence. Qu'est-ce que la Croix-Rouge a pris comme élément nouveau en participant à ce colloque?
Bon, il y a évidemment... Parce qu'on a parlé de la communication, évidemment qui est un volet très important par rapport à nous. Parce que à un moment donné, nous avons toujours, à chaque fois qu'il y a urgence, nous avons toujours sollicité à ce que les médias puissent nous aider à passer le message. C'est déjà un élément très important et capital que nous devrons évidemment après ce colloque, il faut qu'on arrive maintenant à passer au niveau des actes. Nous avons apprécié le fait que, d'abord, la conscience est prise au niveau de la communication et que, de deux, l'organisation, la prévention des catastrophes. Nous avons, par rapport aux différentes catastrophes, du moins les conflits, ça on ne peut pas le prévoir, nous en tant que Croix-Rouge, mais d'autres catastrophes, nous avons des éléments, des indications pour prévenir cela. Et c'est là que nous avons dit, il faut qu'on s'approche la Croix-Rouge et la communication pour que nous puissions donner nos éléments, la matière, pour que la Commission arrive à transformer cela dans le cadre de communication, d'informer la population comment la catastrophe va arriver.
Comment vous procédez concrètement?
Nous, lorsque par exemple... Je prends un élément avec l'observatoire volcanologique, par exemple, à Goma, éruption volcanique. Nous avons déjà eu des contacts préalables et on est en contact permanent. Il y a un tableau qui a été élaboré avec des signaux, des couleurs, où la Croix-Rouge est informée au jour le jour qu'à tel niveau... Bon, c'est la couleur jaune et que la population se sente à l'aise et ainsi de suite. Et lorsqu'on arrive à telle couleur...
Il faut évacuer, par exemple.
Voilà, il faut informer la population et c'est là qu'on aura besoin de la communication pour évacuer la population de tel endroit ou de tel endroit, ainsi de suite.
Honorable François Nzekouye, vous êtes député national de la majorité présidentielle, membre de la commission environnement, ressources naturelles et tourisme à l'Assemblée nationale. Dominique Loutoula, président de la Croix-Rouge de la RDC... s'est posé une question intéressante. Faut-il attendre les catastrophes pour s'organiser?
Non, bien sûr que non, parce que l'expérience d'ailleurs nous montre que la plupart des catastrophes sont anticipées. Il y a, je crois, 3 semaines, il y a un ouragan qui a frappé la côte ouest des États-Unis et qui a perturbé la convention des Républicains pour l'investiture du candidat Mitt Romney. Mais 3 jours avant, ils étaient informés et les précautions ont été prises.
Là, c'est aux États-Unis, mais en Afrique, généralement, ça a été dit dans le colloque.
En fait, non, il faut qu'on
se dise. C'est au jour le jour qu'on se débrouille.
Nous devons nous inspirer des expériences d'ailleurs. On ne va pas inventer la roue. Et c'est comme ça que j'ai apprécié, bien évidemment, l'intervention de Dominique Lutula, qui a parlé, par exemple, du centre vulcanologique de Goma. Parce que moi, je suis élu de Rutshuru, en plein parc. Nous vivons constamment avec des volcans. Et pendant la période de la campagne électorale, il y a, les volcans Mikeno qui étaient en éruption. Et Dieu merci, et les laves allaient vers le parc. Enfin, je dis Dieu merci, mais il y a sans doute des conséquences vis-à-vis des animaux, vis-à-vis des écosystèmes et vis-à-vis des certaines populations qui sont obligées de traverser les parcs pour aller de part en part. Et donc, mais au moins, ce centre vulcanologique qui fonctionne permet d'informer et aux différents services partenaires et à la population que tel événement peut surgir. Mais nous disons que, comme vous l'avez si bien dit, l'aléa laisse une certaine marge de manœuvre entre les mains des hommes. C'est dans les cas, par exemple, des accidents d'aviation que nous connaissons très souvent dans notre pays. Et je crois que les exercices des routines pour simuler ces genres d'accidents doivent être obligatoires, de sorte que tous les services qui interviennent dans ce genre d'accident puissent savoir sauver un maximum de personnes. Donc, comme l'a dit aussi les professeurs Jean Chrétien et Cambo, on ne doit pas se dire que c'est la fatalité. Dès qu'un avion tombe, c'est dire tout le monde doit mourir, aucun service de sapeurs-pompiers ne peut venir pour pouvoir intervenir, pour secourir ceux qui seraient encore en vie. Et donc, c'est cela que nous disons que nous devons prévenir. Et bien évidemment, prévenir, pour nous, législateurs, c'est exiger au gouvernement qu'il soit créé un fonds de prévention des catastrophes. Parce que quand une catastrophe survient plutôt, le plus grand problème qui arrive, c'est le problème des moyens. Comment prendre en charge rapidement des personnes, des malades ou des blessés qui exigent une intervention chirurgicale d'urgence? Il faudrait que les moyens soient là, il ne faut pas attendre que les familles mettent la main à la poche pour qu'on intervienne. Donc un fonds doit être constitué dans ce sens-là. En même temps, il faudrait qu'il y ait un système d'alerte vis-à-vis des populations par le voie des réseaux de communication. Et c'est là que nous plaidons encore sur le fait que les entreprises de télécommunications doivent s'installer pour des raisons sociales, même là où il n'y a pas de rentabilité, pour permettre aux populations qui vivent dans certains endroits d'être informées. Parce qu'un SMS peut sauver la vie de quelqu'un. Si on apprend qu'il y a un volcan qui est en train de venir dans un sens, par un message, on peut arriver à prévenir. Et les zones de l'Est qui sont souvent dans des situations de guerre, on peut prévenir que voilà, les populations doivent quitter à tel endroit vers un autre parce que il y a risque qu'ils soient pris en otage par des mouvements rebelles et autres. Donc la communication, elle est fondamentale et je félicite donc l'organisation de ces colloques pour que nous puissions réfléchir. Je crois que la réflexion va continuer avec nous au niveau de l'Assemblée nationale pour que nous prenions des mesures concrètes, que nous puissions voter des lois qui permettent effectivement qu'on arrive à gérer les catastrophes, parce que on a évoqué que les catastrophes de Brazzaville et d'ailleurs, mais nous sommes un pays où les catastrophes reviennent couramment. J'ai parlé des cas des compagnies aériennes, mais plus loin, il y a eu des barges qui ont chaviré dans le fleuve Congo. Il y a l'Ebola que nous vivons avec aujourd'hui. Et il faut davantage de communication pour montrer à la population que vous devez nettoyer régulièrement les mains, vous devez vous éloigner des personnes malades, que les personnels soignants doivent s'équiper de telle manière face à cette calamité. Donc, je crois que la communication reste un outil fondamental. Vous êtes en train prévenir de prendre une petite pause, mais j'ai beaucoup de choses à dire. Je crois que je vais revenir à la seconde tournée des
communes. Je me redonne la parole tout à l'heure. Il y a Sylvestre Pierrot Kachanda Gwe de Bukavu Sud Kivu qui dit « Les Congolais que nous sommes, c'est-à-dire le peuple et les gouvernants, nous vivons le principe « mieux vaut prévenir que guérir » à l'envers. Et donc, c'est « mieux vaut guérir que prévenir ». Les catastrophes qui guettent les Congolais sont bel et bien vues auparavant, mais les autorités agissent avec un grand retard. À un petit problème qui devrait coûter peu d'argent, les autorités ne réagissent pas, mais elles s'en souviennent lorsqu'il faut enterrer les corps des hommes morts à cause des catastrophes. Honorable Nzekoui, on parlait tout à l'heure de la prévention par rapport à la question que j'avais posée au professeur Ekambo. Au sud Kivu, il y a par exemple le problème du gaz méthane dans le lac. et on attend que, qu'il y ait catastrophe, que ça explose, et c'est à ce moment-là qu'on va se réveiller. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, c'est pas simplement au sud Kivu, c'est...
Ce n'est qu'un exemple, d'ailleurs, parmi tant d'autres.
Ouais. C'est le lac Kivu qui traverse le nord Kivu, le Rwanda voisin, et le sud Kivu. Non, je crois qu'en cette matière, il y a des avancées très significatives dans le sens d'une exploitation prochaine des gaz méthane. Je crois que c'est l'année prochaine que cela devra aboutir. Et donc, c'est effectivement un exemple de gestion des catastrophes, parce que nous savons avec ce qui est arrivé au lac Nyos au Cameroun, combien de gens ont été décimés à cause de l'inhalation de ces gaz méthane. Donc, nous avons, nous, au niveau de l'Assemblée nationale, appelé le gouvernement à aller vite dans ces projets. Et à ma connaissance, le projet est suffisamment en avance par rapport à la gestion de ces catastrophes, ou plutôt, vous ne voyons pas simplement ça en termes de catastrophe, de cette ressource naturelle qui existe et qui pourrait permettre à la province du Nord Kivu, par exemple, de bénéficier de plus d'apport en électricité pour alimenter une partie de cette province qui n'est pas bénéficiaire de l'électricité. Mais je voulais chuter en
très
disant
rapidement
que nous devons être rigoureux en matière d'assurance, parce que ce que nous avons vécu avec les différents accidents, notamment avec les compagnies aériennes, c'est que il faut que les entreprises qui travaillent au Congo s'assurent au Congo, et à ce moment-là, on peut mobiliser directement les moyens pour permettre d'abord de prendre en charge les personnes vivantes, mais aussi indemniser les familles quand ce genre de catastrophes arrive. La même chose, bien évidemment, pour les compagnies qui travaillent dans le domaine maritime et sur le voie routière. Il faut que notre gouvernement soit exigeant en termes d'assurance, parce que on ne peut jamais gérer des catastrophes sans moyens.
Professeur Jean-Chrétien Cambo, l'Afrique, généralement, court derrière les événements. Dans le colloque, vous recommandez, par exemple, aux hôpitaux, aux humanitaires et à la police, par exemple, de mettre en place chacun dans son fonctionnement, à côté ou à l'intérieur, des services spécialisés déjà existants pour communiquer sur les sinistres éventuels. Quelle est véritablement l'importance de ces structures?
Vous aurez remarqué que chaque fois qu'il y a une catastrophe, il y a toujours une mobilisation des ressources locales ou nationales, pourquoi pas internationales. Nous nous rendons bien compte que si on laisse la place totalement libre à n'importe quel intervenant, vous pouvez ne pas contrôler l'arrivée des vautours, ce que nous avons même appelé au cours du colloque des charognards. Tous les humanitaires ne viennent pas pour l'intérêt de la survie des victimes ou même du groupe social catastrophé. Et l'essentiel ici, comme on se le disait tout à l'heure, c'est que dans la prévoyance, nous puissions solliciter les ressources qui existent déjà. Parce qu'elles existent, ça il faut bien se le dire. Nous avons entendu, par exemple, l'exposé du docteur Muyembe, qui est notre virologue le plus réputé, qui nous a dit qu'on ne peut pas considérer Ebola comme étant une catastrophe imprévue. Il est même parti au cours de son exposé d'un postulat. Il a dit, autant notre pays regorge de scandales sur le plan minier, autant notre pays regorge également de scandales sur le plan des épidémies. Il ne faut pas se le cacher. Il a démontré que presque tous les districts de notre pays sont en incubation d'une épidémie quelque part. Alors, il faut à tout moment mettre, je dirais, refaire revivre ce que nous avons comme ressources. S'il arrivait ceci à tel endroit, qu'est-ce qui peut se passer? Vous avez entendu tout à l'heure l'honorable à citer quelques cas. Ceux qui sont riverains du fleuve Congo sont des victimes potentielles des inondations. Ça, on ne peut pas le découvrir demain. Et que la saison des pluies, elle arrive à un moment déterminé. Ce n'est pas au mois de juin. C'est à la fin de l'année, c'est connu. Nous avons par exemple le Bas-Congo, qui est toujours une région plus ou moins victime potentielle de la sécheresse. Nous avons la région des volcans et ainsi de suite. Mais les ressources existent. Il faut répertorier ces ressources pour que dès qu'arrive la catastrophe, nous puissions mobiliser ce que nous avons sous la main.
Professeur Dominique Lutula, président de la Croix-Rouge de la RDC, a parlé au niveau de la Croix-Rouge d'un plan de secours d'urgence en RDC. L'honorable Nzekouye parle d'un fonds de prévention de catastrophes. Comment rallier les deux? Professeur Ekambo.
Ah, je pensais que la question était posée à mon frère de la Croix-Rouge. Je ne suis pas sur le plan institutionnel, mais nous, dans notre programme, ce qui a été élaboré, nous avons dit ceci, que chaque fois qu'arrive une catastrophe, c'est un signal au niveau macro, au niveau sociétal. Cela veut dire que les institutions, les mécanismes institutionnels jusque-là existants sont en proie d'une crise qui pourrait amener un dépassement. Autrement dit, à la fin d'une catastrophe, il faut prévoir ce qui est nouveau, ce qui est advenu et qui n'existait pas avant. Et ce sont ces sortes d'émergences nouvelles que nous devons comptabiliser pour faire ce que nous pouvons appeler plan ou fonds et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'au moment où nous créerons le fonds au niveau national, au moment où nous aurons notre plan, sachez que ça sera toujours une ressource, disons en ce moment-là, momentanée. Chaque fois qu'arrivera une autre catastrophe, nous devons réaménager, réadapter et continuer à toujours assurer la prévoyance.
Dominique Lutula, comment ça se passe généralement à la Croix-Rouge, la gestion des catastrophes avant et après, généralement?
Oui, de toutes les façons, évidemment, nous organisons de telle sorte, nous avons des étapes avant, pendant et même après la catastrophe. La Croix-Rouge réfléchit évidemment par rapport à quand la catastrophe va arriver, qu'allons-nous faire et c'est quelle catastrophe qui va arriver le premier. D'abord, par rapport, par exemple, aux accidents quotidiens, genre crash d'avion ou accidents de circulation routière ou autre, domestique même. Nous nous sommes dit qu'il faut que les équipes de secouristes de la Croix-Rouge, qui sont disséminées à travers le coin et recoin du pays, qu'il soit toujours en alerte. L'alerte, c'est la communication, communication bouche à oreille. Et les secouristes, ils connaissent ça. Et ça, c'est avant. Parce qu'ils sont formés, ils ont la matière. Et qu'est-ce qu'il faut faire pendant? C'est juste la mobilisation, l'appel des gens, et ils sont là, au lieu d'accident. Et après la catastrophe, et c'est là, donc le moment d'accident, c'est juste l'évacuation des blessés, poser les premiers gestes d'urgence et évacuer vers les hôpitaux, parce que nous, on pose seulement les premiers gestes d'urgence. Et après la catastrophe, c'est là que nous voyons, ensemble avec la population et les autorités, qu'il faudra-t-il pour cette population qui a eu des problèmes pendant la catastrophe. Et là, c'est la réhabilitation, qui, des cases ou autres, selon les besoins de créés par cette catastrophe-là. Et à ce moment-là, nous contribuons aux côtés des autorités parce que nous ne pouvons pas remplacer l'autorité. Et voilà, c'est comme ça que nous nous organisons au niveau de la Croix-Rouge dans le cadre de cycle de gestion d'une catastrophe.
N'y a-t-il pas urgence, Dominique Lutula, que l'on instaure ou que l'on ramène, par exemple, dans le programme scolaire, les cours de gestion des catastrophes? On se souvient, à une certaine époque, il y avait les premiers gestes, ça s'apprenait à l'école, mais je ne sais pas si ça existe encore. N'y a-t-il pas urgence d'insister sur ça?
Oui, justement. Donc, à part les adultes que nous recrutons au niveau de la communauté, nous avons des programmes que nous avons mis ensemble avec le ministère de l'EPSP et même l'enseignement supérieur universitaire, où nous passons dans les écoles. Nous recrutons les enseignants, on les forme au premier secours d'urgence, on forme même les directeurs et les inspecteurs d'enseignement pour que ils insèrent dans les programmes de programmes scolaires comment apprendre aux enfants de primaire, par exemple, la non-violence dans les écoles et même en famille. Au niveau secondaire, il y a les notions de premier secours d'urgence que l'on insère. Au niveau des universités et instituts supérieurs, il y a les brigades même que nous installons nous-mêmes où ils apprennent tout ce qui est Croix-Rouge. Connaissance du mouvement Croix-Rouge, premier secours d'urgence, santé communautaire et comment organiser un secours d'urgence au sein d'une entité quelconque. Donc, au niveau de l'enseignement aussi, nous y sommes présents. C'est vrai, il y a certaines institutions d'enseignement qui n'arrivent pas à installer suffisamment les brigades, comme nous les appelons chez nous, les brigades que nous souhaitons chez eux, parce que par rapport peut-être au personnel ou à l'appropriation de matières.
Honorable Nzekouye, tout à l'heure, vous avez insisté sur le système d'alerte par les voies de communication, mais est-ce faisable ici chez nous, quand on connaît toutes les difficultés d'électricité, de réseau, de ceci, de cela, il faudrait qu'on s'inspire de ce qui s'est fait ailleurs, vous avez dit, mais est-ce qu'on peut le contextualiser ici chez nous?
Oui, tout à fait. Je crois quand même que nous sommes un des pays d'Afrique où les taux de pénétration du cellulaire est l'un des plus élevés. Et même dans les villages, les personnes ont des solutions pour pouvoir charger les téléphones. Vous avez l'ingéniosité des Congolais qui ont constitué des tables de recharge de téléphones, quand bien même personne ne peut avoir l'électricité à la maison dans les mondes ruraux. Et donc, je crois sincèrement à cette possibilité pour pouvoir informer régulièrement la population. Mais bien évidemment, tout cela exige encore une fois de moyens. Il faut qu'on sache qui va payer pour cela. Et c'est pour ça que moi, j'insiste sur cette question de fond. Nous déplorons dans la ville de Kinshasa et dans toutes les grandes villes du Congo que quand il y a une maison qui brûle, les services des pompiers arrivent toujours en retard et parfois sans eau. C'est une question aussi des moyens. Il faudrait que chaque municipalité, ou en fait, comment on appelle ça, chaque commune dispose d'au moins un ou deux véhicules et disposant du carburant, disposant de l'eau et disposant du personnel motivé pour pouvoir faire ces interventions-là. Et donc, ça, c'est une question qui doit absolument être réglementée parce que on ne peut pas vivre à la manière où nous vivons aujourd'hui, où chaque fois que nous suivons la télé, on dit non, ma pompe finir, ma pompe, ça fait pomper, ma coma qui, parce qu'il n'a pas été, mais ma coma qui peut être en retard. On ne peut pas admettre ce genre de situation. Et comme l'a dit encore le professeur, les voies de communication doivent être dégagées à ce genre de circonstances. On trouve par moment des personnes qui font obstruction au passage de ces gens de véhicules. Ils estiment que c'est du spectacle. Ou encore, nous avons vu des ambulances transportant des malades et des véhicules d'autres passagers, ou plutôt usagers, qui les empêchent d'amener les malades. Donc, il faut une éducation au civisme, comme vous l'avez dit, non seulement aux premiers soins qu'on doit apporter, mais aussi savoir comprendre qu'il y a des urgences qui doivent avoir priorité dans la vie d'une communauté quelconque. En même temps, il faut renforcer les services météorologiques, parce que la plupart des catastrophes qui surviennent dans notre pays sont de nature soit pluviale, soit de nature volcanique, soit de nature de proximité avec des zones érosives. Toutes ces questions-là, je crois qu'exigent que nous puissions disposer d'un service météorologique qui soit le plus efficace. Actuellement, je suis heureux de me rendre compte que sur vos chaînes de radio et télévision, on diffuse la situation météorologique de deux jours avant. C'est déjà quelque chose de bon. À l'époque, je me rappelle qu'on avait la triste expérience de nous dire « Hier, il a fait 23 degrés. Aujourd'hui, on nous parle de ce qui va arriver dans l'avenir. » Ce sont des évolutions que nous devons encourager. Mais je crois que nous devons soutenir notre État pour disposer de ces moyens modernes pour prévenir, parce que sans moyens, nous ne pourrons pas y arriver.
Merci honorable François Nzekouye. Je rappelle que vous êtes député national de la majorité présidentielle, membre de la commission environnement, ressources naturelles et tourisme à l'Assemblée nationale. Professeur Jean-Chrétien Cambo, vous êtes communicologue, professeur de sciences de la communication dans plusieurs universités au pays et à l'étranger. Rappelez en même temps qu'il nous reste moins de 7 minutes pour terminer l'émission. Professeur, quelles sont les possibilités d'application des recommandations issues de ce collègue, de son colloque, pardon.
Cher ami, je voudrais vraiment revenir sur la question importante qui nous est arrivée du Kivu, je crois, c'est de Bukavu. Mm-hmm. Vous voyez, notre colloque n'a pas été que théorique. Bien entendu, nous devons nous servir des outils théoriques pour aller vers des applications pratiques. Mais nous sommes partis vraiment des exemples très concrets. Je voudrais vous dire que si maintenant, nous ne faisons pas un état des lieux. Disons peut-être par chaque grande ville, pour ne pas dire au niveau national, nous ne ferons pas face aux crises que nous appelons catastrophes, c'est-à-dire qui dépassent la capacité des résolutions humaines. Nous avons vu par exemple que la plupart de nos catastrophes relèvent de l'imprévoyance humaine. Prenons type cas que nous avons analysé. Un aéroport dont la ligne, la trajectoire se prolonge sur un marché. Ça, c'est une imprévoyance humaine. Nous avons analysé l'érosion de Mataba. Si vous prenez des documents, il y a même les archives nationales qui nous ont aidés, qui nous ont donné l'évolution du lotissement de ces terrains-là. Ça, c'est vraiment l'imprévoyance humaine et nous pouvons...
Un lotissement sauvage.
Totalement sauvage. Alors qu'il y a vraiment des alertes qui étaient faites déjà à l'époque coloniale et même, je crois, jusqu'en 1964. Et si nous prenons aujourd'hui, c'est que nous apprécions comme étant la modernisation de la voirie urbaine à Kinshasa. Vous verrez que ce que font nos amis chinois n'est pas nécessairement en adéquation avec la structure urbanistique de la ville de Léopoldville telle qu'elle a été laissée par les colonisateurs. Les bouches d'égout, les bouches d'approvisionnement d'eau, ce n'est pas totalement respecté. Et s'il y a une catastrophe, je crois que c'est à une autre ville que peut-être nous pourrons faire appel, pas Kinshasa, parce que nous ne serons pas en mesure de nous sauver nous-mêmes.
Dominique Lutula, il faut déjà conclure. Vous êtes président de la Croix-Rouge de la RDC. En guise de conclusion, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à l'organisation du colloque, par rapport à toutes les propositions? Finalement, il faut beaucoup de moyens pour également prévenir les catastrophes.
Oui, beaucoup de moyens. Bon,
et de volonté.
De toute façon, c'est surtout la volonté. Je pense que, tout en appréciant évidemment l'organisation de colloque, moi je souhaiterais que, étant donné que le travail est déjà fait, malheureusement, comme je déplorais, on n'a pas eu de contact avec les organisateurs avant, on aurait dû déjà mettre sur table ce document préparé déjà, pour que chacun puisse apporter du sien et que je sollicite à ce que le gouvernement puisse soumettre, proposer ce plan ORSEC, donc Organisation des Secours en RDC, au niveau du Parlement pour que une loi soit adoptée en vue d'éviter les imprévus, les improvisations qu'on venait de déplorer ici. Il faut solliciter les appuis, ça et là. Je crois que dès qu'on adopte ça, on saura qui va faire quoi, comment, et quand, qu'a-t-on besoin pour gérer les différentes catastrophes que nous pouvons avoir dans le pays. Voilà ce que moi je peux conclure à cet terme.
Et peut-être un mot sur la collaboration entre la Croix-Rouge et les médias.
Justement, je disais tantôt que les médias, évidemment, c'est un partenaire très important pour pouvoir communiquer et informer à la population ce que l'autorité, pas seulement la Croix-Rouge, mais l'autorité ou la population a besoin d'informer pour qu'on évite les différentes catastrophes qui frappent la population congolaise.
Honorable Nzekouye, en guise de conclusion, les recommandations du colloque sont pertinentes, mais malheureusement, la crainte, c'est que ça ne reste dans des tiroirs et qu'on les oublie de sitôt.
Non, je ne crois pas. Je crois que si vous m'avez invité sur ce plateau, c'est pour que effectivement nous puissions nous saisir de cette réflexion pour approfondir une réflexion au niveau de l'Assemblée nationale. Et donc, nous faisons la promesse de garder contact avec ces noyaux qui a réfléchi sur une question fondamentale de toute une cité. On ne peut pas vivre sans un programme de gestion des catastrophes. Et donc, je reviens en concluant sur la nécessité d'installer les réseaux de télécommunications, particulièrement dans les milieux ruraux. Mais aussi, nous allons initier la création d'un fonds de gestion des catastrophes. Nous allons le demander au gouvernement pour appuyer les services des sapeurs-pompiers, les services météorologiques et les services vulcanologiques. Mais enfin, exiger des assurances obligatoires et des contrôles techniques réguliers pour les aéronefs, les bateaux et les véhicules dans les pays, parce que c'est par là que malheureusement surviennent la plupart d'accidents ou des catastrophes.
Professeur Jean-Chrétien Cambo, un mot en guise de conclusion.
En peu de mots, je pourrais dire ceci, que la catastrophe relève de l'imprévu, mais la gestion des catastrophes ne doit pas relever de l'imprévoyance.
Merci, messieurs, d'avoir participé à cette émission. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. L'information continue sur radiocapi.net. Au revoir.